Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Ce mois-ci dans Flashback, nous avons le privilège de recevoir Patrick Brion à l'occasion de la parution des 40 ans du cinéma de minuit. Depuis plus de 40 ans, Patrick Brion présente le cinéma de minuit le dimanche sur France 3. 2000 films, connus ou méconnus, chefs-d'œuvre et perles rares, ont accompagné et accompagnent encore des générations de cinéphiles, bercés par l'inoubliable générique signé Gérard Marinelli sur la musique de Francis Lay. Il fallait bien un livre pour retracer cette formidable épopée cinéphilique et c'est chose faite avec l'apparition aux éditions Télémaque des 40 ans du cinéma de minuit. Un ouvrage d'une très grande richesse, thématique et iconographique, composé de plus de 2300 photos et documents. Patrick Brion, bonjour.
Bonjour.
Merci encore une fois infiniment d'être avec nous dans Flashback. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le cinéma, dont une récente encyclopédie du western. Alors, à l'époque où vous lancez le cinéma de minuit, en mars 1976, c'est une époque qu'on a peut-être un peu oubliée, mais comment s'organisait la diffusion des films à la télévision?
À ce moment-là, l'ORTF venait d'éclater à la suite de la loi malheureuse de 1974. Donc, il y avait une case de ciné-club qui était celle dont s'occupait mon ami Claude Jean-Philippe sur France 2, donc sur la deuxième chaîne. France 3 était considérée comme la chaîne du cinéma, c'est les vœux du législateur. Il y avait 4 films dans cette expression horrible qu'on appelle le prime time, c'est-à-dire à 20h30. Mais à 20h30, il était hors de question de passer des films en noir et blanc difficiles, de passer des films en VO et de passer des films muets. Donc manifestement, il nous manquait une case de diffusion. On avait une force de frappe très importante avec les 4 films de 20h30, mais il manquait la possibilité de passer L'Aurore ou M. le Maudit. Donc nous avons demandé au gouvernement, puisqu'il fallait négocier, l'autorisation d'avoir une 5e case. Ils nous ont dit de nous débrouiller très courageusement avec la profession cinématographique. Donc on a à ce moment-là vu les gens du BLIC, le bureau de liaison des industries cinématographiques, qui représentait toute l'industrie du cinéma en France, qui nous a dit, vous avez 4 cases, débrouillez-vous avec les 4 cases. Si vous voulez passer des films en version originale ou des films muets, eh ben utiliser une de ces 4 cases pour le faire. Ce qui était hors de question, puisque c'était à 20h30. Et FR3, il ne faut pas oublier au début, c'était une chaîne difficile, il fallait le sélecteur rotatif pour atteindre France 3, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas de télécommande à l'époque. Donc, il a fallu négocier, il a fallu faire du chantage, mais quand c'est pour de bonnes raisons, on a toujours le droit d'en faire, naturellement. Nous télédiffusions Le Masque et la Plume. Le Masque et la Plume, les gens du cinéma le toléraient à la radio. Tolère qu'on fasse des réserves sur un film. En revanche, l'idée de télédiffuser Le Masque et la Plume à la télévision, c'est-à-dire faire des réserves sur un film à la télévision qui, selon leurs propres termes, leur avait volé leurs spectateurs, était intolérable. Donc on a eu une réunion avec le BLIC, on leur a dit « Vous n'aimez pas la télédiffusion du Masque et la Plume ?»« Ah non, on ne s'en dit pas du tout, il faut que vous l'arrêtiez. » Et ben, elle dit, ça tombe bien, on est prêt à l'arrêter. Si on peut enfin avoir une case, à 22h30, rassurez-vous, pas au prime time, à 22h30, où nous pourrons passer des films plus difficiles. Et c'est pour ça que nous avons commencé par un cycle consacré à Greta Garbo, dont les 5 premiers films étaient des films muets, ce qui permettait de ne pas provoquer l'ire de la profession.
Alors, le livre tiré de ces 40 ans de cinéma de minuit, c'est un livre extraordinaire parce que c'est une sorte c'est une encyclopédie du cinéma, finalement. C'est une encyclopédie très particulière parce qu'elle retrace aussi 40 ans de vie, qui sont 40 ans de votre vie pendant laquelle vous avez sélectionné ces films. Et puis alors quand même, ce qui frappe quand on feuillette les pages, c'est le fait qu'il y a des films qui ont franchement pas l'air faciles à trouver. Par exemple, vous avez The Strange Love of Molly Louvain de Michael Curtis en 1932, même They Won't Forget de Mervyn LeRoy en 1937, qui est le premier film où on voit apparaître Lana Turner. Je ne suis pas absolument certain que ce soit un film hyper facile à trouver, et d'ailleurs après il se pose la question des sous-titres. Donc, et puis après il y a des tas d'autres films vraiment pas faciles à trouver.
Il y a le film de Lewin qui vous était cher.
Les films de Lewin, oui. D'ailleurs, dont vous m'avez donné un jour un enregistrement en VHS. Et donc, tous ces films-là, comment vous faisiez pour les trouver ?
C'est mon métier. Je sais où ils sont. Je les cherche. On trouve des choses. C'est comme un chien qui cherche des truffes. Oui. Je les trouve.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des histoires un peu abracadabrantes de découvertes de films ?
Il y a des choses très abracadabrantes, oui, en effet. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas la Cinémathèque française. Nous sommes obligés, quand nous diffusons un film, d'avoir un contrat. C'est-à-dire qu'il faut que juridiquement, que ça soit parfaitement réglé. Je peux pas passer un film que j'ai trouvé dans le couloir. Il faut que ça soit réglé. Et puis, il faut tout de même essayer et réussir à avoir les copies les meilleures possibles, parce que trop souvent, les films anciens ont été pénalisés par des copies dégoûtantes qu'on passait, et les gens disaient, oh non, si les films anciens, c'est voir des films comme ça, avec des rayures qui sautent comme ça, c'est pas possible. On a essayé à chaque fois de faire tirer des copies neuves, de les sous-titrer. Alors, c'était souvent compliqué parce que les films dont vous venez de me parler, pas tous, mais certains, c'était des films qui n'étaient jamais sortis en France. Ouais. Donc, il fallait faire établir des sous-titres, forcer le distributeur à faire des sous-titres, mais ce sont des choses auxquelles on y arrive. Ce qu'il faut, c'est être persévérant. Il faut se dire que le temps joue pour nous, parce que souvent, il y a des films que j'attendais et le distributeur espérait que j'y renoncerais devant l'urgence. Mais il n'y a pas d'urgence, on attend le temps qu'il faut pour avoir un film.
Et aujourd'hui, ça se passe de la même manière. Ça fait 40 ans que le cinéma de minuit existe. Les techniques ont un petit peu évolué. Est-ce que c'est finalement, vous êtes toujours un chercheur de truffes, comme vous venez de le dire, ou les choses ont un petit peu changé ?
Non, ça n'a pas changé du tout. J'essaie toujours de trouver des truffes rares, pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de passer n'importe quoi.
Il faut bien choisir.
Mais il y a toujours autant de difficultés, parce que ça n'avance pas du tout. Le problème, le droit d'auteur est très 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 compliqué aujourd'hui, de plus en plus compliqué. On a affaire à des petits cousins ou des petits neveux de gens qui n'ont souvent jamais connu, qui pensent que c'est le pactole qui arrive avec un film ancien, ce qui n'est pas vrai, ce sont des films, le retour sur investissement est très très faible, et qui exigent des fortunes, et à cause de qui on peut pas, on risque de plus du tout pouvoir passer le film, plus du tout le montrer, plus du tout le voir. Et ça, c'est très grave. Et il y a des distributeurs, des producteurs qui ont des problèmes d'argent. Si on n'achète pas le film, eh bien, ils laissent le négatif péricliter dans un laboratoire ou ailleurs. Le DVD, alors, on a dit à un moment, ah, ben, en DVD, on verra tout. C'est pas vrai. On voit beaucoup de choses, mais on ne voit pas tout. C'est très frappant. Quand j'ai fait d'ailleurs le livre, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, c'est curieux qu'il y a tout même beaucoup de films qui ne sont non seulement jamais repassés ailleurs, mais ils ne sont pas sortis en DVD. Ça n'a même pas donné tellement l'idée à certains de les sortir. C'est dommage. On a un peu l'impression, mais là je vais être de mauvaise foi, de voir toujours les mêmes films, de voir en DVD ce qu'on voyait en VHS, et de voir aujourd'hui à la télévision ce qu'on a toujours vu. Vous savez ce que disait Godard, et Godard, Dieu sait qu'il a souvent raison. Il disait, plus il y a de chaînes aux États-Unis, moins il y a d'offres. C'est vrai en France. Et plus il y a de chaînes, moins on verra de films de Griffith. C'est absolument vrai.
Il y a vraiment des films, c'est vrai que, enfin moi je pense par exemple à Révoltoso, Oui. Un film extraordinaire, superbe. C'est un chef-d'œuvre absolu.
Superbe.
Et c'est un chef-d'œuvre totalement introuvable.
Ben, il n'y a malheureusement pas de DVD, alors que la Fox peut parfaitement en éditer, au lieu d'éditer quelques bêtises qu'ils sortent. Ils ont qu'à éditer celui-là.
Par contre, si vous étiez devant votre télévision, je ne sais plus quel jour, mais on peut le retrouver grâce à votre livre.
Ah oui, il est chronologique.
Il est chronologique.
Donc ça permet, si on se dit, ah mais quand est-ce que j'ai vu ce film, eh ben on le trouvera. On saura à quelle date.
Voilà. Alors de temps en temps, il y a des films, moi je me suis amusé, parce qu'il y a certains films, je ne savais plus si je les avais vus chez vous quand j'étais adolescent, ou si je les avais vus chez Claude Jean-Philippe. Et alors il y en a, j'ai évidemment tous les films de la MGM, etc. Ça, c'était chez vous. Mais alors, par contre,
La Grande Illusion, c'est plutôt chez lui.
Oui, et je me suis aperçu que l'invasion des profanateurs de Sépulture, c'était chez lui.
Oui, absolument. Voilà.
Mais justement, c'est une très bonne remarque, parce que on se rend compte, en égrenant les pages de votre livre, qu'il y a quand même des choix éditoriaux. Alors, je crois que vous expliquez qu'en effet, Claude Jean-Philippe traitait pas forcément le même cinéma ou les mêmes cinématographies. Mais on est, mine de rien, au fur et à mesure des années, on peut déceler vos cinéastes, il y en a, je pense, nombreux cinéastes de prédilection, des acteurs. J'ai par contre été assez étonné, par exemple, que vous aviez consacré des cycles à George Saunders, par exemple, immense acteur. Des genres aussi, le film noir, même Une ville, vous consacrez à un moment donné un cycle à Venise. Tout cela transparaît très bien, et pour autant, il y a des pans du cinéma qui sont pas ou peu représentés. Est-ce que c'était parce qu'il fallait être complémentaire avec une autre programmation, ou est-ce que aussi ce sont vos choix personnels ?
Bon. Il faudrait, une fois j'en avais parlé avec Claude Jean-Philippe, pour couvrir, et quand j'en avais parlé, c'était il y a une vingtaine d'années. Quand je lui demandais à son avis combien il faudrait de cases pour couvrir un peu l'histoire du cinéma, on pensait qu'il faudrait au moins 5 cases hebdomadaires, dont une case intégralement dévolue au film muet. On en est loin. Il est évident qu'il y a des impasses qui ont été faites. Alors, certaines impasses ne m'ont pas donné mauvaise conscience, parce que je savais que Claude, Jean-Philippe, connaissait très bien le cinéma japonais et couvrirait l'œuvre d'Ozu ou de Mizoguchi ou La Nouvelle Vague, et que ça m'éviterait de le faire. Que moi, inversement, je couvrirais mieux que lui, parce que je connaissais ça mieux que lui, le cinéma muet. Todd Browning, Tex Avery ou Lon Chaney. Donc on était en fait complémentaires sans jamais l'avoir décidé. Parce que je connaissais très bien ses goûts. C'était mon témoin de mariage, donc je connais très bien Claude.
C'est un bon argument.
Oui. On ne s'est même pas téléphoné une fois pour se dire « Tiens, j'ai appris que tu vas faire un cycle sur Hitchcock, lesquels passes-tu ? » Je sais très bien lesquels il passerait. Et je savais très bien que si moi je faisais un cycle Hitchcock au même moment... Ce qui pouvait arriver, je crois que c'est arrivé une fois d'ailleurs. Moi, je passais plutôt les Hitchcock anglais rares, et lui était entre Le crime était presque parfait, L'ombre d'un doute et autres, ce qu'il faut d'ailleurs passer aussi. Aussi, il ne s'agit pas de passer...
Mais justement, sur ces grands classiques, par exemple d'Hitchcock, les plus connus, vous évoquez ça très bien, et ça aussi, c'est peut-être une époque qu'on n'a plus tout à fait en tête, mais pourtant, que vous ne pouviez pas diffuser certains films très connus, des classiques très connus de John Ford, par exemple, ou d'Hitchcock, qui étaient réservés à la VF à 20h30.
Oui.
Il y avait un... Voilà, vous aviez une contrainte par rapport à ça.
Non, ça, c'est pas une contrainte. C'était une contrainte que je m'étais imposée moi-même.
Oui.
Pour une raison très simple. Les cinéphiles, souvent, disent qu'on peut voir un film qu'en version originale, etc. C'est pas faux. Mais quand on est programmateur à la télévision, moi, j'avais la chance de programmer les films de 20h30 en même temps que ceux du cinéma de minuit. Donc, je pouvais me dire... Rio Bravo, L'Amour aux trousses, La prisonnière du désert, il vaut mieux les voir en VO. C'est vrai. Mais à ce moment-là, vous les condamnez à un public qui sait déjà qui est Hitchcock, qui est Ford, et vous empêcherez un public qui ne le connaît pas de les découvrir. C'est-à-dire que si vous passez Rio Bravo ou La prisonnière du désert à 20h30, film dont le doublage est parfait, il ne faut pas exagérer non plus. Moi, je ne parle pas russe. Tout ce que j'ai lu de Tolstoï, je l'ai lu en français. Bon, pas exagéré non plus.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ou 40 ans, dans ce fameux prime time dont vous, oui, n'aimez pas le nom, ou d'ailleurs le dimanche après-midi, on avait énormément de films. Hein. Par exemple, moi je me souviens avoir vu tous les westerns de Delmer Daves le dimanche après-midi. C'était complètement...
Le principe de la programmation du cinéma de minuit, c'était de passer dans le cinéma de minuit ce qui ne passait pas ailleurs. Ce qui ne pouvait pas passer ailleurs. Ouais. Donc tant pis, on ne passait pas... la mort aux trousses en VO.
Alors, c'est vrai que dans votre programmation, dans votre façon de faire les rubriques, on se rend compte à la fois de la volonté de faire vraiment, de réhabiliter des pans de cinéma. Je pense par exemple au cinéma britannique, qui est un cinéma formidable et qui est bizarrement oublié ou sous-estimé, alors que les films des années 40, 50 britanniques sont tout simplement extraordinaires.
C'est à cause de Truffaut, parce que Truffaut disait...
Oui, qu'on ne pouvait pas faire du cinéma et être anglais.
C'est ça.
Voilà.
Oui.
À l'exception d'Hitchcock, d'ailleurs.
Oui.
et puis alors, il y a aussi parfois un éclairage. Par exemple, j'aime beaucoup, je n'avais pas forcément fait attention à l'époque, j'aime beaucoup la rubrique qui met littérature américaine et cinéma. Parce que finalement, on se rend compte que on se rend compte de ce qu'était la littérature américaine aussi à travers le cinéma. On a La dernière fois que j'ai vu de Paris d'après Scott Fitzgerald, Le soleil se lève aussi d'après Hemingway, Les raisins de la colère d'après Steinbeck, et puis aussi un écrivain américain qui est beaucoup moins connu chez nous alors qu'il est très connu en Amérique, qui est Dreiser, qu'on retrouve par exemple dans Un American Tragedy.
Oui. Ça permettait de passer des films, parce que souvent il y a des films qui passaient tout seuls, hors cycle. Et il y a un moment où je me dis ça serait bien de regrouper 2-3 films, et c'est comme ça que naissait l'idée d'un cycle qui était ou sur Venise, ou sur la littérature au cinéma, ou sur George Sanders.
Et il y a aussi un autre aspect, et ça j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, c'est le côté sauveteur du patrimoine, puisque le cinéma de minuit a aussi contribué à sauver des films. J'aimerais bien que vous nous en parliez un peu plus, donner peut-être quelques exemples marquants de films qui ont été, qui ont, grâce au cinéma de minuit, ont permis d'avoir une nouvelle jeunesse.
C'est quelque chose dont j'ai jamais beaucoup parlé, dont nous n'avons jamais parlé à la télévision. France 3 ne s'en est jamais vanté, je pense, avec tort, parce que on aurait dû en parler plus souvent. Parce qu'en effet, grâce au cinéma de minuit, il y a des dizaines de films, vraiment des dizaines de films, qui ont été sauvés. Qui ont été sauvés parce que les négatifs étaient dans un état en péril. S'il n'y avait pas eu un contrat à la clé qui permettait aux producteurs, aux distributeurs de dépenser les frais indispensables pour sauver ces négatifs devenaient de la poudre de café. Moi, j'ai été au conseil d'administration de la Cinémathèque française longtemps, j'ai été responsable de la conservation, j'ai vu les problèmes de films. Vous savez, quand vous avez un film qui était à la Cinémathèque, vous avez 10 bobines, 9 bobines, c'est de la poudre. Et la 10e bobine, c'est une espèce de point de pellicule complètement rongée, et dont vous pouvez juste tirer quelques photogrammes. C'est tragique. Et il y a des films qui étaient tranquillement en train de se décomposer dans des laboratoires ou ailleurs. On a eu une chance, d'ailleurs, récemment, il y a 7-8 ans, j'ai vu arriver des films italiens, de Rossellini, des choses comme ça, de Matarazzo, de Freda, qu'on ne nous proposait pas. Et je n'ai pas très bien compris d'où ils venaient. Alors je me suis renseigné. C'est un laboratoire qui en avait assez parce que les gens qui avaient déposé dans ce laboratoire les films n'étaient pas le laboratoire n'était pas payé. Les types avaient dû faire faillite, avaient déposé les films, avaient dit le film est là, tranquille. Donc le laboratoire disait, moi je vous préviens, je vais balancer le film si vous ne payez pas. Et à ce moment-là, le laboratoire, au lieu de les balancer, et sachant qu'il n'aurait jamais d'argent, a eu l'intelligence de demander des droits en échange. Et donc on a vu émerger, ressusciter des films qui avaient un peu la renommée d'être perdus, comme ça. Il y a eu de grands surprises. Moi, j'ai eu un autre exemple, je me souviens, un soir, je sors du Grand Action qui est près de la rue Monge, le projectionniste me court après dans la rue, en me disant « Monsieur Brion, Monsieur Brion », j'ai dit « Oui ». Et il était intéressé, passionné. Il m'a dit « Vous savez, on vient de découvrir un film de John Ford, Inconnu et perdu ». Oh, je me dis, c'est peut-être un film moins connu que d'autres. Et je lui dis, oui, c'est bien ça, mais il s'appelle comment? Et qu'est-ce qu'il joue dedans? Mais c'est où? C'est en Australie, etc. Bon, mais il était vraiment intéressé, ce type qui était très très bien renseigné, donc il avait dû lire un truc quelque part, pendant les réseaux sociaux. Et donc je me suis renseigné, j'ai regardé Cinémathèque australienne, rien du tout. Cinémathèque néo-zélandaise, parce que je me dis que la Néo-Zélande, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est à côté, tout ça, pour moi, bon. Et en effet, à la Cinémathèque néo-zélandaise, il y avait un film de John Ford qui s'appelait Underness, qui avait été mal étiqueté, donc il avait la renommée d'être perdu, et il n'était pas. Donc, il existait, à ce moment-là, une copie. Alors, ce qu'il a fallu, la Cinémathèque de Nouvelle-Zélande n'avait pas les droits, naturellement. Ils avaient un matériel, mais pas les droits. Il a fallu prévenir la Fox, qui a été très, très compétente, souvent le cas, pas toujours le cas avec les Américains, dans ce cas-là, oui. Et ils ont donc fait une copie pour nous. On a réglé les droits, et on a passé le film dans le cinéma de minuit. Et c'est un film très intéressant, un film muet, sur des acteurs qui se retrouvent. Enfin, c'est une. Comment dire, c'est un immeuble où les acteurs se retrouvent, comme ça, et pas parlent de leur métier. C'est un film même en muet.
Il y a encore pas si longtemps, il y avait bien sûr le cinéma de minuit qui est encore là, bien sûr, mais il y avait aussi le ciné-club de Claude-Jean-Philippe, la dernière séance. La télévision était un terreau favorable à la cinéphilie. Quel regard portez-vous sur le cinéma à la télévision aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on croit à tort que des films, on en voit partout. Alors, c'est vrai qu'on en voit partout. Moi, quand je suis rentré à la télévision, il y avait que deux chaînes. Bon. Et il y avait très rarement un film en VO. Bon. Aujourd'hui, il y a. Le film a été le fer de lance des chaînes du service public, longtemps. A été, à un moment, le fer de lance même de la TNT. Et aujourd'hui, ça a décru au profit de la série. Mais parce que ça aussi, la série témoigne, notamment la série américaine, témoigne peut-être mieux de ce qui se passe de nos jours que le cinéma américain qui est noyé dans les héros de Marvel. Et les téléfilms français, curieusement, contrairement à ce qu'on dit, sont certainement beaucoup plus proches de l'histoire de la France que ne l'est le cinéma français lui-même. Les téléfilms français abordent, je sais pas, Jean Moulin, la Gestapo de Lyon, des personnalités historiques, plutôt récentes, enfin du XXe siècle, largement oubliées par le cinéma. D'ailleurs, étonnant, quand même, qu'il y ait eu deux films sur Jean Moulin à la télévision, produits par la télévision, et pas un film de cinéma. Quand Christian Challonge a voulu tourner son film sur Jean Moulin, il n'a pas eu un rond. Il y a donc une espèce de faiblesse, sans doute, du cinéma contemporain, et ça on s'en rend compte quand on voit beaucoup de films aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était autrefois. Ça, il y a le problème du noir et blanc, on a fait croire longtemps aux gens que le noir et blanc était insupportable, ce qui n'est pas vrai du tout. Les gens me demandent, c'est très bien, moi je me souviens d'un jour, je rentrais, mes enfants étaient en train de voir Marius, de Pagnol, ils avaient l'air ravis. Je ne disais rien, j'ai attendu. Et après, je leur ai dit, ça vous a plu ? Ah ouais, c'était bien, qu'est-ce que c'était drôle, etc. Si vous avez rien remarqué ? Si vous avez rien remarqué ? Ah si, le son n'était pas bon, ce qui est vrai. Parce que c'est tourné en son direct. Mais j'ai dit, vous avez remarqué d'autres ? Bon non, c'était en noir et blanc. Ah oui, c'est vrai, ouais, bon, c'est pas gênant. On fait croire aux gens qu'il y a des choses insupportables, ce qui n'est pas vrai. Et tout ça a abouti à la disparition. Plus il y a de concurrence, en effet, une fois de plus, Godard avait raison, plus il y a de concurrence, moins il y a de risques. Le ciné-club de France 2, il a disparu. Le cinéma de minuit, heureusement, tient encore debout, j'espère encore longtemps.
Et à la lecture du livre, on se dit que votre cinéphilie, enfin moi ça me frappe énormément, elle paraît inépuisable, votre cinéphilie. Et existe-t-il encore des films qu'il vous reste à découvrir ?
Ah oui, heureusement.
Toujours, encore aujourd'hui ?
Sans ça, je ne me lèverai pas. Oui, oui, absolument, je suis en train de...
Des trésors cachés que vous n'avez pas encore...
Je suis en train de préparer pour le même éditeur, là, Télémac, l'équivalent de ce que j'avais fait pour le western, pour le film policier. Eh bien, donc j'ai réussi à trouver des films policiers américains, puisque là, le premier volume, en tout cas, sera sur le cinéma américain, des années 30 et des années 40, que je ne connaissais pas du tout. Du tout. Pourtant, c'est un genre que je connais pas mal. Et là, c'est des films que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'étais très, très content. J'ai découvert pratiquement 150 films que je ne connaissais pas, qui n'étaient jamais sortis en France, qui étaient des films plutôt de série B. C'était pas des découvertes exceptionnelles au niveau de la réalisation, pas de chef-d'œuvre, mais en revanche des sujets, sur le choix des sujets, des choses très intéressantes. Non, il y a plein de films, heureusement.
Eh bien, en tout cas, tellement de films déjà à découvrir ou redécouvrir grâce à ce livre, Patrick Brion. Merci beaucoup. Je rappelle la parution de Cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films aux éditions Télémac.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi.
Fan footage, le lundi à 19h.
Bah, il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive.
Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors.
C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ?
Et sur toutes les applications podcast.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.